Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec Pascal Bérubé du Parti québécois, on discute de la bataille entre féminisme intersectionnel et universaliste. Il admet que son parti s'est trompé en appuyant Québec solidaire sur l'intersectionnel. De plus, on lui demande de commenter les récentes déclarations du ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, qui songe à légiférer pour forcer les grandes plateformes numériques à promouvoir la culture québécoise. Mais d'abord, on a de la grande visite en studio.
Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Éric Duhaime n'a pas de député, mais tente de se faire une place dans le débat politique. Il est de passage sur la colline aujourd'hui pour nous parler, entre autres, du chemin Roxham. Et il est même en studio avec nous. Bonjour, Éric Duhaime.
Bonjour.
Chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup pour votre visite. Donc, vos appuis, là, le sondage d'hier nous le disait, sont en baisse. Donc, plusieurs observateurs soutiennent que c'est simple, la pandémie est terminée, les mesures sanitaires sont derrière nous. Donc, est-ce que le Parti conservateur peut survivre à la fin de la pandémie?
D'abord, il reste plus que trois ans et demi avant la prochaine élection. Je pense que présentement, les partis politiques ont les yeux rivés sur autre chose que les sondages. On est au lendemain d'une élection qui a été, pour nous autres, historique. Hein? On est passé de 1 à 13 %. On n'a jamais vu ça de notre vivant, là, un parti qui progresse de façon aussi fulgurante en une seule campagne électorale. Même le Parti québécois, on peut penser que c'était un peu l'élan qui avait été fait par l'ARN avant ou la CAQ, ça avait été fait par l'ADQ avant. Mm. Mais quand on voit Québec solidaire, sa première élection, c'était en bas de 4 %. L'Action démocratique de Mario Dumont, c'était 6 %.
Vous autres, 13?
13 du premier coup. Ouais. C'est quand même une
croissance historique. Il y avait eu historique. Le Parti conservateur d'Adrien Pouliot avant.
Ouais. 1 %. Donc, on est passé de 1 à 13 d'une shot. Donc, ça a été quelque chose d'important. Cela étant dit, il y a eu beaucoup de déceptions le lendemain de l'élection, pas parce qu'on n'était pas nombreux, 530 000 électeurs, c'était bien au-delà de nos espoirs.
Sauf faut le dire, c'est pas loin du Parti québécois.
On est né à né, en fait. Oui. Les quatre partis sont à moins de 100 000 votes. Hein. Les quatre c'est partis ça. D'opposition, on est tous entre 500 et 600 000 votes. Là. Et ça a été bon, mais ça ne s'est pas traduit en siège. On avait un
vote. Vous avez eu bénéficié d'un contexte. Là. Il y avait toutes sortes de monde qui était en rogne à cause des mesures sanitaires. Justement, c'est ma question. Comment faire en sorte de progresser dans un tel contexte?
Où... Il y a de la place au Québec pour un parti de centre-droit. Je pense que ça, il y a des Québécois qui sont plus à droite, qui veulent un État réduit, qui veulent une intervention qui respecte davantage leur liberté individuelle. Mmh. Ça a toujours été. François Legault, on a pensé, moi le premier, j'ai voté trois fois pour la Coalition Avenir Québec de François Legault. On a pensé que François Legault allait être un premier ministre de centre-droit. On est obligé de constater, après presque maintenant 5 ans au pouvoir, que c'est un parti qui a augmenté les dépenses de l'État comme jamais ça s'est passé dans l'histoire du Québec, qui nous a légué...
Il y a un contexte quand même.
Qui nous a légué le pire déficit de l'histoire du Québec, qui en matière de santé nous a promis à la dernière campagne électorale qu'il allait construire 2 hôpitaux privés. Il arrive au pouvoir, première chose qu'il fait en matière de santé, il dépose un projet de loi pour éliminer les agences privées en santé. Il nous avait promis plus de...
Il va les faire, les deux...
Mais on attend encore. Yamimou, il m'avait dit qu'il allait sortir...
Les deux hôpitaux, là. Youri Chassin est sur le cas, là.
Demandez à Youri Chassin comment va l'étude. Vous allez voir que ça avance pas vite. Moi, j'y parle pas, mais j'en entends parler.
Avez-vous essayé de lui parler?
Non, j'ai pas voulu parce que je voulais pas le mettre dans une situation embarrassante, puis je voulais pas le... Claire Samson, vous savez que c'est de ma faute, ça s'est fait expulser de la CAQ parce que je lui avais parlé justement et qu'elle a donné de l'argent, elle avait contribué à
vous
ma
caisse. Vous attendez quand pour faire votre maraudage?
Ben, je pense qu'il faut laisser retomber la poussière un peu. Là, l'élection a eu lieu il y a 5 mois maintenant. Mais je parle à différentes personnes. C'est sûr que la politique étant ce qu'elle est, c'est du côté des insatisfaits qu'il faut aller regarder. Hein? Donc, il y en a de plus en plus à la CAQ, puis j'ai l'impression que dans les prochains mois, il va en avoir encore plus.
Qui est insatisfait selon vous?
Ben, c'est normal, là. Tous les députés ou à peu près se voyaient ministres. Il ne faut pas se le cacher. Là. Il y a beaucoup de députés qui avaient des ambitions. Il y a beaucoup de députés qui réalisent que leurs ambitions ne seront jamais matérialisées parce que...
Mais à part Youri Chassin, est-ce qu'il y en a qui sont dans votre nid?
Il y en a quelques-uns, oui.
Puis, avez-vous des noms?
Mais non, je négocierai pas sur la place publique. Mais comme je ne l'ai pas fait avec Claire Samson à l'époque, mais je pense que ça va arriver. Mais chaque chose en son temps. Là, la priorité, c'est de démontrer, regardez, on a un gouvernement qui a clignoté à droite dans la campagne électorale, puis on a un gouvernement qui gère...
Pas en 2022.
Bien là, promettre du privé en santé puis arriver avec un projet de loi. Il n'a pas promis qu'il allait abolir les agences privées en campagne électorale. Il a promis qu'il allait construire deux hôpitaux privés. Il y a 55 % des Québécois, si vous additionnez le vote du Parti conservateur du Québec et le vote de la CAQ, qui ont voté pour plus de privé en santé. Mmh. Et on se ramasse que le premier projet de loi présenté par le gouvernement, c'est un projet de loi pour fermer ce qui est privé dans la matière de santé, c'est-à-dire les agences privées. Ça va totalement à sens contraire.
Les agences, c'est une bonne chose. Tout le monde dit là, que ça nuit.
Moi, j'ai une question.
Parce qu'ils ont toujours les bons corps de travail, les infirmières qui viennent des agences.
On a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé, vous le savez. Ma question au ministre Dubé, malheureusement, je ne peux pas la poser à l'Assemblée nationale, puis c'est là que vous voyez comment ça serait important qu'on soit représenté dans la chambre.
Vous êtes quand même ici à Cube, là-haut sur la colline.
Malheureusement, le ministre Dubé n'est pas au bout de la ligne, puis il ne peut pas répondre à ma question. Mais moi, j'ai une question. Combien de milliers de personnes, de personnel soignant, va quitter le réseau de la santé s'ils abolissent les agences? Parce qu'il y a des gens, on le sait, là, il y a des gens qui vont quitter parce qu'ils ne veulent plus retourner dans le monopole public.
Mais s'ils améliorent les conditions de travail dans le public...
Mais c'est quoi le chiffre? À combien ils estiment qu'il y a de gens qui vont déserter le réseau? Parce qu'on
vous
a déjà une pénurie de main-d'œuvre. On a déjà une pénurie de main-d'œuvre. Ben, moi, je n'ai pas les études, je ne suis pas au ministère. Là. C'est eux qui ont la connaissance de leur milieu. Moi, je veux savoir c'est combien de gens qui vont déserter le réseau. Moi, j'ai voté là, pour nos candidats. Les gens qui ont voté conservateurs, ils ont voté pour plus de monde en santé en additionnant la contribution du secteur privé. La CAQ nous avait dit, eux autres aussi, voulaient d'une certaine façon augmenter l'offre par du privé. La première chose qu'ils font, ils veulent consolider le monopole public, éliminer le privé, puis avoir des soins de moins bonne qualité avec moins de monde dans le réseau. Parce que c'est ça qui va arriver. Ils ont répondu à une demande de QS puis des syndicats. Pas une demande du Parti conservateur. Là. C'est un parti qui a clignoté à droite pour aller chercher notre électorat en campagne électorale puis qu'aujourd'hui, il est en train d'adopter le programme de Québec solidaire.
Dans la région de Québec, là, on constate que vos appuis baissent aussi. Ça profite un peu au Parti québécois et à Québec solidaire. Comment vous expliquez ça?
Bien, d'abord, il faut faire très attention quand il y a des sous-échantillons d'un sondage. Les marges d'erreur sont toujours beaucoup plus élevées. Il y a beaucoup de conservateurs qui ont voté pour nous. Ils se rendent compte que leur vote ne sert à rien. Puis c'est ça qui est dangereux dans ce que M. Legault a fait. Hein. Le fait qu'il a pris la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec, puis au lieu d'essayer de régler le problème parce qu'il nous donne une voix pour que la démocratie s'exprime au Québec, il a tout fait pour nous empêcher
de rentrer. Est-ce que ça sert vraiment à rien? Vous avez quand même un bon salaire là, maintenant. Vous avez une équipe. Vous gagnez quoi, 130 000 $?
Mais je veux juste vous dire une chose. Là.
Grâce au vote des gens, ça vous a donné comme 2 $ par vote.
Mais la maison du peuple, l'autre bord, là? On est 0 sur 125 alors qu'on représente un Québécois sur 6 ou sur 7.
Oui, mais vous êtes contre la réforme du mode de scrutin?
On n'est pas contre. Nos membres vont en discuter lors du prochain congrès. D'ailleurs, on a reçu Jean-Pierre Charbonneau, le président du mouvement Démocratie Nouvelle, à notre dernière convention. On va recevoir d'autres jeunes du mouvement Démocratie Nouvelle. On va avoir un débat lors de notre congrès cet automne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu dis à 530 000 Québécois « votre vote vaut rien », ça envoie un mauvais signal pour la participation électorale. Moi, ce qui m'inquiète, le plus grand...
Vaut rien. Est-ce que vous exagérez pas? J'insiste, là, vous avez maintenant des budgets.
Je peux même pas
grâce
poser...
Au mode
attendez,
de...
là. Le Parti libéral du Québec a 5 millions de $ avec pratiquement le même nombre de votes que nous autres. Là. Ils ont 5 millions de $ de budget de recherche puis de budget de communication au Parlement, l'autre bord. Là. Ouais. Nous autres, on a zéro. On a eu le même nombre de votes.
Mais vous avez quand même des budgets
rien,
grâce...
C'est ça que ça veut dire. On a les budgets pour le parti politique,
c'est ça.
Pour nos associations, pour notre vie militante. C'est par tête de pipe, c'est par vote. Mais en termes de démocratie, en termes de parlement, en termes de politique, en termes de recherche, on a zéro. Le Parti libéral du Québec a 5 millions de $ avec le même nombre de votes.
Dans cette situation-là, vous?
Bien, on fait un appel...
À part de venir ici...
On fait un appel au sens démocratique du premier ministre. Pensez-vous vraiment que René Lévesque aurait agi comme François Legault dans ce dossier-là? François Legault, là, vous devez le savoir, là, mais on avait une entente. Okay? Moi, j'avais une entente avec son cabinet qu'on allait avoir certains privilèges à l'Assemblée nationale. Ils sont allés au caucus, ça n'a pas passé au caucus. C'est des intérêts partisans de députés de la région de Québec.
Vous l'avez rencontré
comme une
le 17
menace.
Janvier?
Qu'est-ce qui nous voit comme une menace. Ouais. Ben oui, le 17 janvier, il m'a dit, Éric, mon caucus m'a dit non. Mais j'ai dit, Monsieur Legault, pensez-vous que René Lévesque se serait fait dire non à la démocratie par son caucus puis aurait préféré des intérêts partisans?
Oui, il n'a pas réussi à faire passer sa réforme du mode de scrutin, René Lévesque, en 1984.
Mais René Lévesque, quand il est arrivé puis qu'il était le temps de défendre les droits des anglophones, il les a défendus contre son parti. Puis c'est arrivé à plusieurs occasions qu'il a été capable de se lever au-dessus de la ligne.
Je regardais votre Twitter tantôt, puis il y a des gens encore fâchés des électeurs du Parti conservateur. Il y en a un qui dit, qui vous reproche d'avoir dit qu'il n'y a pas eu de fraude électorale au Québec. Pouvez-vous me fournir des preuves, s'il vous plaît, monsieur le chef, écrit-il là, sur Twitter?
Ben moi, je pense que ceux qui disent qu'il y a eu de la fraude, c'est à eux que revient la responsabilité de prouver qu'il y a eu une fraude. On ne peut pas dénoncer une fraude si on n'a pas de preuves. Moi, je n'ai pas vu de fraude. J'ai vu des irrégularités, comme j'en ai vu à toutes les campagnes électorales. C'est arrivé que quelqu'un se présente et dise « Ah, il y a quelqu'un qui a voté à votre nom ou vous n'êtes pas sur la liste électorale. » Ça, j'en ai entendu parler. On dit même qu'il y a eu des erreurs informatiques à certains niveaux. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça a influencé le vote? Est-ce que ça fait une différence en termes d'élus? Ça, on n'a aucune
est-ce
preuve.
Est-ce que c'est un peu une théorie du complot? Puis est-ce que c'est pas ce qui caractérise une partie de votre électorat?
Qu'il y a des gens qui doutent du résultat électoral, ça, c'est vieux comme le monde. À chaque élection, j'ai toujours entendu du monde perdre les élections pour essayer de blâmer le processus ou essayer de blâmer quelqu'un. Moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Moi, je suis dans la dynamique où on se retrousse les manches, on va travailler plus fort, puis la prochaine fois, on va faire mieux.
Vous êtes ici aujourd'hui pour convier les autres membres de la classe politique à un voyage au chemin Roxham. Est-ce que le Parti québécois vous a piqué ce type de thème-là? Est-ce que vous n'êtes pas en rattrapage là-dessus,
mais
sur Roxham?
Nous, ce qu'on veut faire, c'est un front commun au Québec. Ce n'est pas juste un stunt d'une fois. Là. Puis je n'ai parlé avec M. Legault quand je l'ai rencontré le 17 janvier dernier, puis il m'est revenu une heure plus tard pour me parler, me dire « T'étais-tu sérieux? Puis comment tu verrais ça? » Moi, je pense qu'il faut que les 5 partis s'unissent, qu'on parte ensemble, les 5 chefs, qu'on s'en va à Ottawa, on rencontre tous les chefs de parti, on rencontre les caucus et on leur explique pourquoi il faut fermer cette brèche au Québec, que l'immigration illégale est en voie de devenir plus importante en nombre.
Comment on ferme cette brèche-là?
Bien, il y a déjà des agents de la GRC qui sont sur place. Il y a déjà moyen, si on l'annonce publiquement...
Le Parti québécois disait qu'il faut envoyer la Sûreté du Québec.
On peut envoyer
d'accord?
La Sûreté du Québec, mais il faut dire qu'on va suspendre l'entente des tiers pays sûrs, qui est permis d'ailleurs à l'article 10.3, le dit clairement de cette entente-là. Donc, on peut dire c'est fini. Puis là, c'est sûr, vous allez me dire, il y en a qui vont passer ailleurs. Il y en a toujours eu qui ont passé ailleurs. On a la plus grande frontière non protégée au monde. C'est normal qu'il y ait des gens qui passent ailleurs, mais c'est en petit nombre. Là, on parle de quelque chose qui est devenu institutionnalisé. On parle de réseaux de passeurs. On parle même de la ville de New York qui finance
du monde. Est-ce que c'est un thème qui vous a été piqué par le Parti québécois?
Bien, je pense que... Idéalement, ça appartient à aucun parti. Là. Je pense que l'écrasante majorité des Québécois sont contre l'immigration illégale. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on parle d'une seule voix. Je ne comprends pas que M. Trudeau n'a pas encore compris ça. Puis d'ailleurs, il est un peu responsable de ça. Rappelez-vous son tweet en janvier 2017, où il disait à tout le monde, tous les rescapés de la Terre, le Canada va vous accueillir. Welcome to Canada. Bien, aujourd'hui, on paye le prix de l'irresponsabilité de Justin Trudeau.
Vous avez été conseiller là, sur la colline parlementaire à Ottawa, entre autres pour Stockwell D. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de l'ingérence chinoise?
Je suis très préoccupé. Je pense que comme tous les Canadiens ou tous les Québécois qui entendent ça, c'est fou là, qu'un pays étranger qui nous est hostile finance des élections, favorise 12 candidats dans une campagne électorale, qu'après ça, on voit que le gouvernement chinois a financé la fondation Pierre-Éliott Trudeau. Là, ils se sont fait prendre. Là, aujourd'hui, j'ai vu, je pense, dans le journal, là, vous annoncez qu'ils ont remboursé finalement les Chinois qui avaient financé la fondation. Ça nécessite une enquête, mais ce qui m'a le plus découragé, c'est de voir l'attitude du premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui, au lieu de déclencher une enquête publique et indépendante parce que c'est une grave ingérence dans la politique, dans la démocratie, de la part d'un régime autoritaire communiste, il est sorti pour attaquer le SCRS, le Service canadien du renseignement, et pour dire...
Donald Trump avait fait ça face à la Russie, vous vous souvenez?
Comment ça, c'est que personne le traite de Trump, lui?
C'est ça. C'est bon! Hey, parlons langue, parce que moi, oui. ça me préoccupe beaucoup, langue française.
Ça nous préoccupe tous.
Ben, pas vous. Je veux dire, dans la campagne, vous étiez tellement anti-loi 96. Oui. Vous avez dit que la loi 96 mettait à risque les soins de santé.
Parce que Québécois aussi, t'es contre. Vous avez jamais accusé d'être contre le français.
Oui, mais eux autres, ils voulaient aller plus loin. Mais vous, vous avez dit des affaires comme ça met en danger les soins de santé en anglais... Quel article de la loi 96? Je pose la question aux libéraux depuis à peu près 3 mois. Ils savent pas, ils patinent, font des bulles.
Moi, ce que j'ai dit, c'est que la loi 96, elle ne réglait pas le problème et le déclin du français.
Oui, mais vous avez tellement dénoncé cette loi-là.
Oui, je l'ai dénoncé parce que j'ai eu l'impression que c'était un instrument politique utilisé par la CAQ pour paraître nationaliste, mais que dans les faits, tout ce que ça faisait, ça exacerbait les tensions entre nos communautés linguistiques, mais ça ne réglait pas le problème du déclin du français à Montréal. C'est ça le problème. C'est ça le problème de la CAQ. C'est bien paraître, mais que ça change rien leur politique. La même chose qu'avec sur le chemin Roxham, quand M. Trudeau et M. Legault écrit des lettres à M. Trudeau, là, ça paraît bien.
Mais je connais des profs francophones qui enseignent actuellement au cégep en anglais qui me disent ben désormais, avec la loi 96, je vais enseigner en français parce qu'ils sont obligés de choisir des cours en français. Donc, ça peut avoir un effet, ça, de francisation des communautés anglophones?
Mais il y a un paquet de réglementations tatillonnes au niveau des entreprises qui ont beaucoup fait jaser dans la communauté anglophone. La dernière chose qu'on a besoin, c'est d'une chicane. Je pense pas. Je pense qu'on est rendu en 2023. Là, on n'est plus à l'époque des chicanes ni constitutionnelles ni linguistiques. Moi, je vois les anglo-québécois comme
Vous êtes contre une commission qui
non,
ferait...
Non, je pense que les anglophones, ouais. là, je les vois comme des alliés pour défendre le fait français au Québec. C'est peut-être ça la différence entre moi et
ouais, mais tous ceux avec qui vous étiez d'accord, ils disent des choses comme la loi 96, c'est la Gestapo, ça c'est Anne-France Goldwater. Quand on écoute Marlène Jennings, elle a dit que c'est une loi pour éradiquer l'anglais au Québec. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces énormités-là?
Moi, ce que je dis, c'est que la réalité linguistique au Québec a
mais
changé.
Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur ces énormités-là?
Écoutez, là, il y a toujours du monde qui vont sortir des déclarations loufoques, là, je ne commenterai pas tout.
Non, mais c'est systématique dans ce camp-là.
Ce que
camp-là,
je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a jamais eu autant d'anglophones qui parlent français. Il n'y a jamais eu autant de mariages entre anglophones et francophones. Et que les
mais
anglophones...
Mais le français décline à Montréal.
Il y a une forte majorité des anglophones au Québec qui librement choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école française, à l'école bilingue ou dans des cours d'immersion de français. Il y a eu une grosse progression. Puis au lieu de toujours parler du fait de taper sur cette communauté-là...
Mais ils capotent parce qu'on leur impose des cours en français
oui,
au cégep.
Ils le font librement comme jamais ils l'ont fait dans l'histoire du Québec. Ça aussi, il faut le dire. Et puis, il faut les encourager dans ce sens-là. Faut pas essayer de le faire sur un climat de confrontation. Moi, j'aimerais mieux qu'on le fasse sur un climat d'union.
Petite question en terminant pour vous taquiner. C'est la saison des taxes et impôts.
Oui.
Les histoires de retard et de non-paiement vous ont beaucoup nui pendant la campagne. Avez-vous pris des mesures pour que ça ne se reproduise pas?
Ben, écoutez, j'ai payé mes taxes avec intérêt et pénalité, mais je suis même sorti récemment. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des Québécois qui ont goûté. Il y a eu des hausses de taxes phénoménales au Québec.
Oui.
On parle de 20-30 %. J'étais allé à la Macasa dans les Hautes-Laurentides. 35 % de hausse de taxes municipales.
Vous leur suggérez de ne pas payer leurs taxes?
Non, mais je suggère qu'il y a des mouvements pour protester contre les hausses de taxes. On a même proposé à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, de plafonner les hausses de taxes à l'inflation, c'est-à-dire 6,7 %, parce qu'il y a des... Écoutez, j'ai rencontré le Fernand Rouet, par exemple, là, du Lac Chaud à la Macasa. Lui, c'est 41 % d'augmentation, 1 000 $ de plus de taxes pour une maison qui n'a pas d'égout, pas d'aqueduc sur une route non pavée. Un moment donné, là, il y a de l'abus présentement au niveau des taxes municipales, puis le gouvernement doit arrêter de se laver les mains puis dire que ce n'est pas leur responsabilité. Ultimement, c'est eux qui sont responsables, ils sont même en partie responsables de cette hausse de coûts-là parce qu'ils demandent aux municipalités. Moi, je demande qu'il y ait un plafonnement. La CAQ, malheureusement, n'a pas donné suite à notre suggestion.
Merci beaucoup, Éric Duhaime.
Ça a été un grand plaisir.
Chef du Parti conservateur, vous viendrez nous voir?
Toujours un plaisir.
Sur la colline?
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
On a assisté depuis la semaine dernière à l'Assemblée nationale à un débat un peu ésotérique entre le féminisme intersectionnel et le féminisme universaliste. Le Parti québécois a voté avec Québec solidaire pour le féminisme intersectionnel. On en parle avec Pascal Bérubé de ça, mais aussi de culture. Bonjour, Pascal Bérubé.
Bonjour.
Député de Matane-Matapédia du Parti québécois. Donc, intersectionnel, c'est un peu anti-laïcité, ça. L'avez-vous échappé, ce vote-là, où vous avez voté pour le 8 mars intersectionnel avec Québec solidaire?
D'abord, il n'y a pas eu de vote. Québec solidaire arrive avec une motion pour le 8 mars, comme il est de tradition d'en débattre à l'Assemblée nationale. Et c'était la dernière occasion de faire ça avant les 2 semaines de travail dans la circonscription. Alors, on voit la motion, c'est pour le 8 mars. Évidemment qu'on veut participer à la motion, on ne veut pas la bloquer. Et dans le texte de Québec solidaire, il y a évidemment des termes assez généraux sur le féminisme, le combat des femmes le 8 mars, mais ils ajoutent « intersectionnel ». Qui fait partie de la thématique nationale de plusieurs grandes centrales pour cette année dans le thème.
Mmh.
L'erreur qu'on a fait, c'est de s'y associer, c'est-à-dire que Québec solidaire présente sa motion et là, avec l'appui du PLQ et du Parti québécois. On n'aurait pas dû le faire, c'est notre erreur. On n'aurait pas bloqué le débat, on aurait participé au débat pour on aurait expliqué notre position. Alors, notre erreur est là.
Vous étiez conjoint, c'est ça, j'ai dit, vous avez voté, mais c'est vrai, il n'y a pas eu de vote parce qu'il n'y a pas eu de consentement.
Il n'y a pas eu de vote parce que c'est toujours le gouvernement qui dispose en premier. Ils disent pas de consentement. Et ben là, évidemment, il y a des gens qui se questionnaient parce que Québec solidaire a dit, ben nous, nous avons rallié le Parti libéral et le Parti québécois. D'un autre côté, il n'y a rien qui a changé. Cette approche intersectionnelle, nous ne souscrivons pas. Nous sommes, je dirais, d'un féminisme universaliste. On défend toutes les femmes qui vivent toutes sortes de discriminations et qui mènent toutes sortes de combats. L'intersectionnel, ça, ça peut faire l'objet de bien des débats, mais à bien des égards, c'est une des façons utilisées pour combattre, par exemple, la laïcité.
C'est ça.
Alors, je respecte les individus ou les formations politiques qui en font la promotion. C'est le cas de Québec solidaire, mais ce n'est pas notre position. Et je l'ai réitéré par un tweet qui m'a valu toutes sortes de définitions, toutes sortes de commentaires. Mais il n'y a rien qui a changé quant à notre position.
Il y a eu tout un débat, justement, sur Twitter avec l'ancienne candidate vedette Myriam Lapointe-Gagnon, qui, elle, a tellement été attaquée là, parce qu'elle a parlé d'hommes blancs cisgenres. Elle a traité, un militant péquiste d'hommes blancs cisgenres. Puis ensuite, elle s'est fait ramasser et elle a dit « c'est épouvantable comme j'ai été attaquée ». Est-ce que les péquistes sont parfois trop vigoureux sur Twitter?
Je veux juste préciser que, oui, elle a reçu des commentaires, mais elle en a fait aussi. Elle a attaqué le Parti québécois. Elle a attaqué un individu en disant qu'il ne pouvait pas comprendre parce qu'il était un homme blanc cisgenre.
Ouais.
Je veux dire, ça ne devrait pas disqualifier les gens de participer au débat, sinon je la réfère au chef de sa propre formation politique, qui est un homme blanc cisgenre, qui s'appelle Gabriel Nadeau-Dubois.
Ouais.
Est-ce qu'il devrait être disqualifié parce qu'il n'est pas une femme racisée de parler de ces enjeux-là? Bon, on peut bien aller là-dessus si on le souhaite. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a été candidate au Bas-Saint-Laurent pour Québec solidaire. C'est une militante active de Québec solidaire. Moi, je lui ai répondu avec beaucoup de bienveillance, pour prendre le terme à la mode, que certains utilisent à satiété, en disant, écoutez, vous dites que vous êtes déçu du Parti québécois. Vous savez quoi? Il m'arrive aussi d'être déçu de votre formation politique. Ceci étant dit, j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci de continuer à défendre les CPE qui sont importants pour les familles. Et si j'avais eu plus d'espace, j'aurais pu indiquer merci de défendre une grande réalisation du Parti québécois. J'avais pas vraiment d'espoir d'entendre ça parce que c'est rare que les militants de Québec solidaire le disent. Mais ceci étant dit, c'est une très bonne personne que j'aime bien. Mais Twitter, parfois, des débats qui sont acrimonieux, que je regrette aussi. Et puis, j'espère que pour tout le monde, on est capable de faire des débats dans le respect.
Vous l'aviez approché, vous, le Parti québécois, pour qu'elle soit candidate, hein?
Moi, je lui ai déjà envoyé un message pour lui dire « j'aimerais changer avec vous ». J'ai jamais eu de retour. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui l'ont fait.
Okay.
Mais finalement, on a fait un très bon choix parce que notre candidat, Félix Rioux, que j'ai choisi, dans le sens que je l'ai approché puis il a dit oui, mais il a fini deuxième à 22 ans. Il a fini en haut de Québec solidaire, la Rivière-du-Loup-Témiscouata, et de l'avis de tout le monde, y compris de Jean Damour, l'ancien député ministre de la circonscription. C'est lui qui a fait la meilleure campagne. Il dit de lui que c'est un des politiciens d'avenir au Québec.
Alors, Félix Rioux. OK.
Oui, Félix Rioux, finalement.
Vous avez dit, je l'ai choisi. Je trouve que ça fait Legault un peu, là, qui choisit ses candidats.
Je l'ai approché. Je pense que le terme est meilleur. Je l'ai rencontré à Rimouski dans un événement. Je l'ai approché. Vous avez raison. Je l'ai approché, puis il a dit oui, puis il me faisait confiance. Puis je dirais que dans tous les candidats qu'on a eu au Québec, c'est un de ceux qui était les plus impressionnants. Et je me fie à ça, je me fie aux militants, mais aussi aux commentaires que j'ai eus de cette région-là, de gens qui ne sont pas au Parti québécois, des analystes, des gens des autres formations politiques, à surveiller ce jeune homme, seulement 22 ans, qui a fait une très belle campagne.
Parlons culture maintenant. Le ministre Lacombe dit on est capable de poser des gestes qui vont être complémentaires à ce qui se fait au gouvernement fédéral pour défendre la culture, notamment sur les plateformes comme Netflix, Spotify, les obliger finalement à mettre en avant le contenu québécois. Y croyez-vous?
Ben, ça serait pas prématuré d'avoir des gestes du gouvernement de la CAQ. Moi, j'avais questionné la ministre précédente, qui est l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, à savoir si la CAQ avait posé quelconque geste pour rapatrier l'ensemble des pouvoirs en culture et des budgets associés du fédéral. Réponse, rien. Aucune lettre est envoyée, aucune démarche a été faite.
Mm-hmm.
Donc ça, au moins, je m'attends à ça. C'est dans le programme de la CAQ de rapatrier ses pouvoirs et ses budgets.
Le programme, vous voulez dire le fameux nouveau projet pour les nationalistes du Québec?
Le nationaliste de 2015.
Ça, c'est 2015. On dirait qu'ils l'ont oublié, ce truc-là.
Oui,
non?
Ils l'ont oublié, puis je m'y réfère à l'occasion. Donc, ça, c'est le minimum. Puis d'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon a questionné le premier ministre là-dessus récemment, et il n'est pas revenu là-dessus. Il dit, on a fait des gains dans d'autres domaines, mais en culture, c'est service minimum. Bon. Ensuite, quand le ministre dit Québec est prêt à légiférer pour faire en sorte que les grandes plateformes, je vais nommer Netflix et Spotify, puissent intégrer davantage de contenu québécois.
Y croyez-vous?
Je sais pas comment une telle chose est possible. D'abord, on n'a pas ces pouvoirs-là. Puis même si on avait tous les pouvoirs en culture, c'est très complexe d'organiser, je dirais, une contrainte pour ces grandes plateformes internationales. Nous, on a une approche différente qui est dans notre document à nous, qui est toujours valide, qui est notre plan d'urgence sur le français, qui dit essentiellement que il vaut mieux travailler à ce que nos grandes productions puissent se retrouver là où il y a beaucoup d'achalandage sur ces grandes plateformes. Donc, un bureau de promotion de nos œuvres, que ce soit des films, des documentaires, des séries télévisées, des spectacles du monde, il y en a déjà quelques-uns, pour qu'elles se retrouvent, ces œuvres sur Netflix, des œuvres musicales sur Spotify et sur d'autres tribunes. Alors, c'est ce qui nous différencie de la CAQ là-dessus. Alors là, le ministre a mis la barre haute, il est prêt à légiférer. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Il y a peut-être une façon qu'on ne soupçonne pas.
Mais ici, à ce micro, le constitutionnaliste Patrick Taillon disait que, de toute façon, les lois étaient tellement anciennes, les lois sur la radiodiffusion datent d'une époque où, justement, l'Internet n'existait pas. Donc, on pourrait, le Québec pourrait rapatrier certains pouvoirs en disant que c'est plus les tuyaux qui sont réglementés, mais le contenu, donc... Et ça fait longtemps que Patrick Taillon dit ça. Moi, j'ai écrit plusieurs chroniques pour répercuter ça, mais j'ai comme l'impression qu'à l'Assemblée nationale, on veut pas mener ce combat-là du rapatriement de certaines compétences en matière de culture. Ça dort, là, je veux dire. Il y a personne qui parle. Même vous n'avez pas tellement parlé.
Ben, c'est souhaitable. Enfin, on en a parlé parce que on en a fait l'objet d'une question du chef du Parti québécois. Question culture. Du chef du Parti québécois au premier ministre du Québec, ça vaudrait la peine de s'y référer parce que c'est très clair qu'on dit au premier ministre, est-ce que vous allez poser des gestes pour rapatrier tout ça? Puis là, on lui fait vraiment l'étalage de sa position. Le premier ministre va sur d'autres sujets. Alors, je trouve ça dommage. Le Québec fait ce qu'il peut avec je dirais, le financement qu'il a, les pouvoirs qu'il a. Par exemple, la loi sur le statut de l'artiste, je l'ai saluée, c'est une avancée qui était nécessaire. Mais il y a d'autres choses qu'il peut faire avec ses budgets. Par exemple, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le financement doit être assuré parce que tous les indicateurs que j'ai me démontrent que là, la mission même est un peu compromise. En tout cas, ce qu'on souhaite faire de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les espaces bleus, j'ai quand même appris quelque chose dans une longue entrevue accordée à un quotidien montréalais où le ministre dit, ben vous savez, la construction, ça coûte cher. Moi, j'avais compris que c'était de la rénovation. C'est pas seulement une subtilité, là. Qu'on prenait des bâtiments existants, qu'on allait les rénover, mais là, on semble parler de construction. Et on parlait d'un leg du premier ministre dans le dernier mandat ou pour ce mandat-ci. Et là, on dit que ça pourrait s'échelonner sur 10 ans, peut-être plus. Alors là, il y a un changement de cap important et le ministre ne peut garantir que ça sera pendant qu'il est ministre de la Culture et des Communications qu'on verra les 17 espaces bleus du Québec. Je considère personnellement que que c'était pas nécessaire, que le réseau muséal a besoin de soutien, qu'on va dédoubler. Et ça m'apparaît comme la création d'un autre réseau créé par la CAQ qui fait l'objet de beaucoup trop d'attention de ce gouvernement pour les besoins qui sont exprimés. Les réseaux parallèles, on en a beaucoup. Les maisons des aînés, ça, c'en est un. Les labs écoles, c'en est un autre parce qu'ils ont poursuivi comme les libéraux là-dessus.
Les maternelles 4 ans, diriez-vous?
Les maternelles 4 ans et les espaces bleus. Alors, je me questionne, j'ai l'impression qu'ils sont en mode accéléré pour laisser des traces, hein, que c'est la CAQ. Ça va même plus loin que ça. Vous savez que devant les écoles primaires, maintenant, ça prend des écriteaux bleus avec du bois puis de l'aluminium. Hein? Les gens oubliaient ça. Fait que c'est vraiment une empreinte de la CAQ qui doit vraiment être...
Ben là, bleu, bois, aluminium, c'est le Québec aussi. Là. Je veux dire, le Parti québécois pourrait souscrire à ça. Non?
Absolument, mais je veux dire, est-ce la priorité de faire ça quand on a juste à faire quelques bêtes de plus et constater l'état des écoles, comme moi je le fais souvent. D'ailleurs, j'ai envoyé une belle invitation au ministre de l'Éducation nationale, j'aime bien ce terme-là, qu'on lui disait que ça serait bien aussi de visiter des écoles côté 10, c'est-à-dire les pires résultats au plan socio-économique. J'en ai quelques-unes, malheureusement, dans ma circonscription, mais je serais prêt à l'accompagner. Mmh. Il y a trois vitesses dans les écoles. Il y a des écoles privées, il y a des écoles avec des vocations particulières dans le public, il y a des écoles qui n'ont pas de vocation particulière et où les professionnels de l'éducation, les enseignants et enseignantes, font un travail acharné au quotidien. Et c'est là que devrait être la priorité.
C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Pascal Bérubé.
Merci. Au revoir.
Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.